Française, Français, Belge, Belge, Tourterelle, Tourtereau, Isabelle, Isabeau, Damoiselle, Damoiseau, Jouvencelle, Jouvenceau, Maquerel, Macro, Béchamel, Beauchameau, Pucelle, Puceau, Marcel, Marceau. Mon président, mon Saint-Bernard, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. Mon premier souvenir du mime Marceau remonte à plus d'un quart de siècle. J'étais alors un fort bel enfant bouclé aux grands yeux noisettes, dont les joues de pêche délicatement duvetées. Ça m'excite, j'arrête. J'étais gamin. Des années avant Vogel les mouettes, Marcel Marceau commençait déjà à faire un malheur en fermant la sienne tous les soirs, devant une salle comble. Je crois me souvenir que c'était celle du théâtre Sarah Bernard, aujourd'hui rebaptisé Théâtre de la Ville, pour des raisons qui relèvent apparemment plus du crétinisme municipal à l'état pur que de l'antisémitisme caractérisé. Quelques heures avant le spectacle, donc, j'étais rentré du lycée par le métropolitain. Ça m'arrivait pas souvent, mais le chauffeur de maman était au sport d'hiver. Alors que tout petit, déjà, je ne savais pas conduire les automobiles. Or, dans ce compartiment de métropolitain, le hasard voulut que je tombasse sur une demi-douzaine d'individus des deux sexes, c'est-à-dire zigounette ou pilou-pilou, qui gesticulaient désespérément en s'auto-balançant des mandales dans la tronche sans dire un mot. C'était mon premier contact avec une équipe de sourds-muets. De nos jours, grâce aux efforts salutaires des uns et des autres pour une plus grande solidarité entre les hommes, grâce aussi au développement des idées nouvelles qui nous ont permis de comprendre enfin que les handicapés sont des gens comme les autres, nous pouvons nous fendre la gueule tous les jours à la télé en regardant le journal des sourds et des non-entendants. Mais dans les années 50, dont au sujet desquelles je vous cause, les malheureux sourds-muets n'avaient point encore de tribune pour s'exprimer entre eux et se communiquer un peu de chaleur humaine par le biais de leur désormais traditionnelle danse du scalp sans les jambes sur Antenne 2, tous les jours avant la pub sur les chaînes Haute Fidélité, c'est d'ailleurs très amusant. Aussi, l'enfant que j'étais, comme tout être humain confronté à l'étrange et à l'inconnu et à la nouveauté, ne pouvait-il qu'être partagé entre une crainte confuse et une très grande commisération pour ces pauvres gens? C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, quand le soir même de cette pénible rencontre métropolitaine, le rideau du théâtre se leva sur cet homme, mon cœur naïf d'enfant fragile se souleva d'horreur. J'avais été élevé dans l'amour de Dieu et l'application permanente de la charité chrétienne, avec une telle exigence dans le respect des saints sacrements que quelques jours plus tôt, maman avait voulu que l'hostie de ma communion solennelle à la Madeleine fût faite à la main chez Fauchon. Mon cœur tout neuf, disais-je, se souleva d'horreur quand je compris ce soir-là que l'homme que nous jugeons ensemble aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, ne faisait que gagner ignominieusement sa vie en se moquant ouvertement des malheureux infirmes sourds-muets dont j'avais le jour même touché du doigt l'immense détresse. Ah, Dieu me tripote! Jamais, aussi longtemps que je vivrai, c'est-à-dire une bonne quarantaine d'années, j'espère encore, mon Dieu, s'il vous plaît, faites pas le con, réveillez pas mes métastases, j'ai déjà faim du printemps prochain, je veux rire encore et manger du confit d'oie, s'il vous plaît, mon Dieu, merci. Jamais, disais-je, avant d'être assez grossièrement interrompu par Dieu, jamais je n'oublierai cette journée. D'abord, ces pauvres gens couverts de bleu à force d'essayer de se dire bonjour en s'autofilant des baffes. Et ensuite, ce monstrueux clown au cynisme glacé, la gueule enfarinée pour pas qu'on le reconnaisse, qui singeait sans pitié ces pauvres sourds-muets devant un parterre repu de bourgeois gloussants et de mémères glapissantes, l'âme au sec et le fibrome dans le vison. Ah, ah, chrétiens, vous ne méritiez pas Jésus-Christ. Bien sûr, je vous l'accorde, mesdames et messieurs les jurés, les infirmes sont ridicules. Ta gueule, l'aveugle. Mais qu'ils soient handicapés physiques ou mentaux, est-ce vraiment de leur faute? Je voyais tout à l'heure une immense affiche de Monsieur Tinerossi. Est-ce sa faute à cet homme? Moumoute en stuc et dents de plastique? La tronche ravalée par les ciments Lafarge? Et le bedon replâtré par thermolactyle Babar? Le brumel des momies? Est-ce sa faute à cet homme s'il n'est plus aujourd'hui qu'une prothèse vivante tellement usagée qu'on dirait Charles Trenet? Non, Marcel, mon lapin. Non, Marcel, vous n'aviez pas le droit de vous conduire aussi bassement. Qu'il soit débile profond, hydrocéphale, trichromosomique ou speakerine à la télévision, les handicapés, moteurs ou carrosserie ont tous le droit à notre respect. Les aveugles ont le droit de regard sur les sourds. Les sourds ont le droit d'entendre les doléances des muets. Les cul-de-jattes ont le droit de vivre sur un grand pied s'ils en ont les moyens. Et comme le disait récemment sur France Inter l'ineffable docteur Torjman, la quéquette pensante des hôpitaux de Paris, les manchots eux-mêmes ont le droit de prendre en main leur sexualité. Et après tout, Dieu me chatouille, les imbéciles n'ont-ils point le droit de vote ? Il n'y a qu'à voir le résultat. Donc le mime Marceau est coupable. Si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincus, mesdames et messieurs les jurés, je me ferai une joie de vous le mimer à la sortie. Mais avant de céder la parole à la traditionnelle minute d'expression corporelle ibérique, de mime ibérique, je ne résiste pas au plaisir d'illustrer mon propos par une anecdote authentique, une histoire d'aveugle. Cette histoire d'aveugle, je la dédie, je suis très sérieux là, je la dédie tout spécialement aux milliers d'aveugles qui nous écoutent, et qui ont, j'en suis sûr, mille fois plus d'humour que les faux culs qui leur font l'aumône de leur pitié rabougrie en les baptisant non-voyants avec une pudibonderie de bigots cul pincés tout à fait répugnante. Mais vous allez me dire qu'attendre d'autres de ce siècle gluant d'insignifiance où l'hypocrisie chafouine est instaurée en vertu d'État par la lâcheté même des cuistres officiels qui poussent la fourberie jusqu'à chialer sur la Pologne en même temps qu'ils achètent du gaz aux Russes. Donc voici pour finir cette histoire authentique. C'est passé un soir que Ray Charles venait de donner un récital triomphal au Royal Festival Hall de Londres. Et après le spectacle, une journaliste débutante, émue aux larmes par tant de talent, est allée l'interviewer en tremblant dans sa loge. « C'était magnifique, monsieur. Vous m'avez fait pleurer, » dit cette jeune fille. « Il y a dans votre voix déchirée tout l'espoir du monde. C'est plus qu'un chant d'amour, c'est un cri de vie. Mais ce doit être horrible d'être aveugle de naissance. » Excusez-moi de vous poser cette question, mais comment faites-vous pour exhaler tant de joie malgré cette nuit totale ? Vous êtes enfermé. Bof, a répondu Ray Charles. Bof, faut se faire une raison, ma petite dame. Vous savez, on trouve toujours plus malheureux que soi. Moi qui vous parle, j'aurais pu être nègre.